Bon matin, c'est à mon tour. Eh oui, je suis de retour de vacances, mais les vacances sont comme finies pour quelques semaines. Je finis ici, puis on pack le van, puis on s'en va à la villa pour 2 semaines pour le camp anglais. Vous prierez pour nous autres. Qui dit whoop? Nice! Lui est là avec moi, ça va être magnifique. Ça fait quelques années qu'on n'a pas eu une couple de semaines ensemble de même. Hein? Une semaine. C'est pas deux, tu vois. Il m'obstine. Pourtant, c'est moi qui ai le micro. Hein? Non, mais vous prierez pour le camp. On va avoir, si vous y pensez, 12 jours pleins avec 55 jeunes inscrits qui vont entendre l'Évangile 2 à 3 fois par jour. Une prêche le matin, des choses le soir, puis des temps dans la cabine. Donc, c'est toute une occasion, toute une gang d'occasions qu'on va avoir. Donc, vous prierez pour les moniteurs, vous prierez pour Justin Aubut qui va prêcher, pour tous les gens qui sont impliqués, pour que ça puisse être efficace pour le Seigneur. Puis après ça, on est au camp Brochet pour le camp familial, mes vraies vacances dans l'année, mais ça aussi, je travaille un peu. Mais je ne chialerai pas, c'est juste la musique. Juste un peu, juste la musique. Mais, non. Oh, mais, comme je dis, retour de vacances, et là, vous allez voir, je vais jaser un peu de ce qu'on a fait cet été. C'est pas pour perdre votre temps, ça va avoir un rapport. Je vais arriver vite là, à mon message. Mais depuis que j'ai fini de travailler, j'ai eu à peu près 9 jours à la maison depuis le fin juin. J'ai passé une semaine chez mes parents. Ça, c'est fait du bien, hein, d'aller chez nous, dans l'ancienne maison où je grandissais avec mes parents, puis ma soeur, puis des gens que je connais, qui m'ont connu depuis que j'étais. Fait du bien, hein, on est confortable là, à la maison. Et je l'étais. J'étais bien confortable, assis sur le divan, laisser ma mère travailler pour moi. Moment, c'est ça? C'était bien magnifique. Et après ça, on est revenu quelques jours, puis on est parti en camping au Vermont. Ça, par exemple, c'est un autre genre d'expérience. Les lignes aujourd'hui, hein, on avait un dossier avec des 2 passeports, puis les 3 certificats de naissance, puis on avait vérifié dans le couleur pour s'assurer qu'on n'avait pas de viande pas cuit, puis on n'avait pas d'ici, puis pas de l'autre, puis l'autre affaire, puis je suis quand même nerveux aux lignes parce qu'ils sont capables de m'amener sur le bord, puis tout vider le truck, ça m'a pris 3 heures à tout pacter, tous les petits gros coins. Et tout le temps que tu es là-bas, mais je me dis, si je fais arrêter parce que je fais de la vitesse, tiens, il ne faudrait pas. Je sais, ici au Canada, on peut faire 10 de plus, mais là-bas, c'est combien? Je ne sais pas. Non, mais moi, j'ai fait la limite de vitesse ici, au Vermont. Là. Juste pour être sûr, tu sais, puis on s'assurait, vérifier toutes les choses. Parce que je n'étais pas chez nous, contrairement à chez mes parents, là, où ce que j'étais bien chez nous. Au Vermont, je n'étais pas chez nous. J'étais un citoyen canadien aux États-Unis. Je n'étais pas chez nous. Et ça m'a fait penser... Justement, je méditais où ce que je voulais aller, ce quoi j'étais pour prêcher, ce que je voulais faire avec vous. Puis justement, le passage que je voulais prendre, c'est en Philippiens 4. Donc, si vous pouvez y tourner, on va y aller. Entre-temps, je vais mentionner, la dernière fois j'étais ici en avant, j'animais un temps de prière le dimanche soir. On était 50 cette soirée-là. Le plus jeune avait 4 ans, le plus vieux, je ne sais pas. On ne rentrera pas là-dedans, mais on a tous eu un beau temps de prière ensemble, à louer le Seigneur, à chanter. C'était magnifique. Je veux donner un devoir à tous ceux qui étaient là. Il va y avoir un autre dans pas long, dans au moins 3 semaines. Je suis parti, mais en tout cas. Je veux donner un devoir à tous ceux qui étaient là, c'est de trouver quelqu'un à amener la prochaine fois. Et parle-leur de ton expérience, parle-leur de ce qui était différent des réunions de prière normales. Convainc-les, vends-le. Puis on va partir de quoi comme église ensemble à prier. Mais votre présence était bien appréciée. Donc, nous, on a un passage ici, en Philippiens 3, c'est le verset 20 qui nous dit « Pour nous, notre cité ou notre citoyenneté est dans les cieux. » C'est une chose merveilleuse, hein, que de savoir que même si on vit dans ce monde-ci, même si on vit dans cette chair-ci, on n'est pas citoyens d'ici. Ce monde est plein de péchés, plein de mal, plein de douleurs, plein de peine, plein de misère. Que même des belles choses que le Seigneur nous a données, comme le travail, peuvent devenir pénibles. Même des relations les plus intimes peuvent être difficiles. Même les personnes les plus proches, ils nous blessent juste le plus profondément. Mais nous, nous ne sommes pas citoyens de ce monde-ci. Nous sommes citoyens d'un monde à venir, citoyens des cieux. Et on va en parler un petit peu plus loin, j'espère que je vais pouvoir être bien éloquent pour vous convaincre que c'est une chose merveilleuse, on va voir. Ce n'est pas mon don premier d'être éloquent. Mais je voulais justement organiser tout mon message. Et je pensais à ça, je me dis, regarde, qu'est-ce que ça pourrait être d'être citoyen de quelque part? Ben, tu sais, des privilèges qu'on a, des responsabilités qu'on a, puis d'essayer de faire toute une comparaison de ça à partir de ce petit passage-là. Mais quand ma conscience chrétienne et de prédicateur m'a dit, non, Will, tu ne fais pas ça. Pourquoi je ne fais pas ça? Parce que ça, c'est mes idées que je partagerai avec vous. Et c'est pas ça qui m'intéresse de faire. Je ne viendrai pas ici partager mes idées avec l'Église. Vous n'avez pas besoin des idées de Will Pugh. Vous avez besoin des idées de Dieu. Donc, ce qu'on va faire, c'est à partir de ce texte-là, on va regarder un petit peu en avant, puis un petit peu en arrière, après. Puis on va essayer de voir qu'est-ce que la parole dit, qu'est-ce que Paul dit, sont les caractéristiques des citoyens des cieux. À partir du texte qu'on va voir. On va lire un passage ensemble pour partir, et après ça, je vais faire l'exposition de ce texte-là pour vous. On va essayer de voir en quoi on peut se comparer. Donc, on va commencer à chapitre 3, verset 17. Je lis dans la version de la Colombe. Si c'est différent, ça se peut que ça soit, mais c'est la même vérité. Donc, soyez mes imitateurs, frères. Portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Il en a plusieurs qui marchent en ennemi de la croix du Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin, c'est la perdition. Le Dieu, c'est leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de s'assujettir. Merci, toutes choses. Prions ensemble. Seigneur, nous ouvrons ta parole parce que nous voulons entendre ta voix ce matin. Nous voulons que ton Saint-Esprit nous parle et nous démontre toute la gloire qu'il va avoir à vivre dans ton royaume. Et déjà, Seigneur, déjà, nous sommes participants de ce royaume-là par ton Saint-Esprit qui vit en nous, par la nouvelle naissance. Et nous attendons, Seigneur, ton retour pour la consommation de toutes choses, pour la fin de toutes choses. Mais maintenant, Seigneur, enseigne-nous à vivre. Enseigne-nous à prendre le bon chemin. Enseigne-nous à prendre des pas justes, bien, pour ton royaume et pour toi. Amen. Pour nous, notre citoyenneté est dans les cieux. Donc, on va regarder pour voir le texte. On est dans le paragraphe, puis on a commencé à verset 17. Et on voit là, notre citoyenneté est dans les cieux. Paul se présente en premier comme modèle pour ça. Il dit, on le voit en 3:17, « Soyez mes imitateurs, frères. » En fait, Paul se présente comme étant quelqu'un qui vit selon les priorités du royaume, si on veut, selon cette nouvelle naissance et selon cette citoyenneté qui est ailleurs. Paul il dit, moi, je suis un. Vous connaissez ma vie, vous me connaissez. Vous savez qu'est-ce que je fais, comment je vis? Vis comme moi. Première étape, un exemple qu'on peut prendre pour un homme qui vit selon les priorités du royaume, avec un citoyen intérieur, c'est d'imiter Paul. Encore une fois, on pourrait lever la main et donner des suggestions sur toutes sortes de choses qu'on pourrait penser sur la vie de Paul, qui seraient tous vraies, venant dans différentes places. Mais encore une fois, ce que j'aimerais voir, c'est regarder le texte. Est-ce que vous savez qu'en Philippiens, Paul il parle énormément de lui-même? Et ça commence. On va juste vous regarder un petit peu en arrière. Il dit, chapitre 3, verset 2, il dit, « Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les vrais circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Pourtant, moi-même, j'aurais sujet de mettre ma confiance dans la chair. » Et il continue, il parle de lui circoncis le huitième jour, selon la loi,
de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, le préféré de son père, hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi pharisien, le parti le plus strict de sa religion. Quant au zèle, persécuteur même de l'Église, il avait été tellement fort dans sa religion qu'il persécutait les autres, l'autre religion qui était là, persécutait même le Messie puis ses disciples. Quant à la justice légale, avoir suivi la loi, avoir fait les sacrifices nécessaires pour sa justice personnelle, irréprochable. C'est quelque chose, ça. Donc, Paul y parle de lui. Il dit, prends-moi comme exemple. Et on va regarder qu'est-ce qu'on a ici. Qu'est-ce que Paul y dit maintenant comme citoyen des cieux? Le pedigree qu'il vient de donner, c'est sa citoyenneté, c'est la terre. Il parle de ses parents, il parle de son tribu, il parle de ce que ses parents avaient fait de le circoncire le huitième jour. Il parle de tout son travail à lui avant d'avoir rencontré Jésus-Christ. Avant. Et qu'est-ce que Paul il dit là-dessus? Comment que Paul dit « vit comme citoyen des cieux » selon le texte ici? On va le lire. « Mais ce qui était pour moi un gain, toutes les choses qu'il avait assez de travailler pour gagner, toute ce grand pedigree dont il était fier, qu'il pouvait dérouler un rouleau et montrer à tout le monde comment il était merveilleux, tout ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et je considère tout comme des ordures afin de gagner Christ. » C'est des mots forts. Des mots forts. Et c'est une première chose qu'on a à faire si on veut vivre notre citoyenneté dans les cieux. Il y en a ici, peut-être. Peut-être même qui ont grandi dans l'Église. Des enfants de chrétiens qui ont entendu parler des histoires de la Bible depuis longtemps. Ou d'autres qui sont venus avec quelqu'un qui n'ont jamais entendu rien comme ça. Et devant Dieu, si tu devais être franc, tu dirais que tu étais juste. Peut-être tu penserais, comme Paul, quant à la justice légale irréprochable. Ou tu dirais, mes parents ont fait plein de choses, j'ai été baptisé moi jeune, puis j'ai eu ma première communion, puis j'ai fait telle ou telle chose. Ou, peu importe. Là. Première étape pour vivre notre citoyen dans les cieux, c'est de considérer tout comme des ordures. De prendre tout ça et le mettre aux poubelles. Je le raconte dans mon témoignage comment que j'ai. Mes parents m'ont enseigné l'école du dimanche. Eux autres, ils organisaient un genre de camp de jour dans notre église, dans le petit village. Ils m'achetaient des livres chrétiens. Je lisais des petites bibles en bande dessinée dans mon lit. Là. Mais à un moment donné, moi, à 17 ans, quand j'ai entendu l'Évangile pour le vrai, pour la première fois, il a fallu que je mette tout ça de côté et de dire, j'étais pas finalement un bon gars. Dieu n'était pas impressionné par tout ce que j'avais fait. De mettre tout ça de côté pour la connaissance de Jésus-Christ. Première étape, et c'est là qu'on reçoit notre citoyenneté. Donc, je vous encourage, réfléchissez, jugez toi-même. Devant Dieu, tu comptes sur quoi? Sur toi, sur Jésus. Par cette question de vie et de mort. Maintenant, première chose qu'il dit, c'est ça. Qui rejette sa confiance dans lui-même, puis cherche Dieu pour son salut. Mais il continue là-dedans. Je voudrais juste vous présenter les paroles d'un chant que j'ai entendu quand j'étais aux États. C'est le fun de la radio chrétienne là-bas, j'aime bien. Il y a un groupe qui s'appelle Leland, qui parle dans le chant, il parle de devant le tribunal du Christ, quand je vais être là devant son trône. Rien de caché, rien qui n'est pas connu. Dieu va tenir dans ses mains un livre. Puis mes gestes vont être dedans. Ma vie va être écrite dedans. Puis dans le refrain, il dit, pose des questions, il dit, « Qui étais-je? Où allais-je? Quel genre de fruit est-ce que mes actions faisaient pousser? » Et là, il pose une question, il dit, « Est-ce que c'était ma passion juste de... » Et moi, dans mon âme et conscience, en écoutant cette chose-là, j'ai arrêté là. Parce que j'ai pas aimé le mot qu'il dit. En fait, je l'ai pas aimé, j'aime le mot qu'il dit, là, mais j'étais mal à l'aise, parce que c'est pas ça que j'aurais dit. Toi, qu'est-ce que tu dirais? Pas besoin de l'entendre, mais tu dis, devant Jésus-Christ, on pose la question, c'était quoi ta seule passion? Moi, j'aurais dit, seule passion de servir. seule passion de travailler dans l'Église, de servir des gens, d'aimer des gens. Peut-être ça que je souhaiterais travailler vers, mais je ne travaille même pas vers le bon but. La question qui pose, était-ce ma passion juste de le connaître? Et je trouve intéressant parce qu'il vient rejoindre Paul. Regardez donc avec moi, verset 10, 3-10, où ce qui présente une des caractéristiques pour lui d'un citoyen des cieux. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, mon but est de le connaître, lui. Je trouve l'emphase qu'il met, c'est très emphatique ça, hein? De le connaître, lui. Bonne exhortation. On est supposé imiter Paul. On est supposé avoir des exemples comme ça. Justement. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, de participer à ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Tout un but. Donc, pour Paul, d'être citoyen dans les cieux représentait peut-être deux choses. Un, pour le salut, de mettre de côté toutes ses œuvres, toute sa vie, tout ce qui était fier, tout ce qu'il pensait qu'il avait fait pour plaire à Dieu, pour tourner uniquement vers Jésus-Christ. Et deuxième, en tant que chrétien, en tant que citoyen, de courir vers le but, de connaître Jésus-Christ. Je peux dire, j'ai besoin d'apprendre ça. J'ai besoin de laisser de côté des fois l'étude de la parole pour enseigner, de laisser de côté l'écoute des chants parce que je les trouve beaux ou juste pour louer, puis d'étudier la personne de Jésus-Christ, de parler avec lui, d'écouter sa parole quand il me parle. C'est un apprentissage à faire. MacArthur dit dans un livre, « Fleeing from Enemies », je ne pense pas que c'était traduit en français, mais j'ai traduit librement, si vous excuserez mon français. « Le point focal de ma vie est simplement d'être comme Christ. » Voici pourquoi je dois laisser la parole du Christ habite en moi abondamment, selon Colossiens 3:16. Voici pourquoi je dois contempler la gloire du Christ pour être transformé en son image, comme 2 Corinthiens 3:18 nous dit. Voici pourquoi Christ doit être pleinement formé en moi, comme Galates 4:19. Voici pourquoi, si je dis que je demeure en lui, je dois marcher comme lui, 1 Jean 2. Je dois être comme Christ. Voici le but de ma vie. Donc, le but de ma vie est en dehors de moi. Pas en moi, mais en dehors de moi. Plus loin même que moi. Je ne suis pas préoccupé pour moi-même. Je suis préoccupé par le désir de devenir comme Christ. Seulement le Saint-Esprit peut le faire alors que je me concentre sur Christ. Je me concentre sur lui et l'Esprit me transforme à son image. Sa citoyenneté dans les cieux a changé. Son espoir, la base de son espoir, le but de sa vie. La citoyenneté dans les cieux, dans la vie de Paul, il poursuit en parlant des gens qui ont collaboré avec lui. Et vous remarquerez verset 17 encore, « Portez le regard », en fait, le mot veut dire « remarquer, marquer ». Lui. Je me demande si c'est quelque chose qu'on fait, si nous, en tant que personne, on a marqué des gens dans l'Église qui sont des modèles pour nous parce qu'ils marchent de cette façon-là. On a-tu pris la peine? Avant d'aller voir qu'est-ce qu'ils disent sur les collaborateurs, je me demande si on a pris la peine. On a-tu regardé? Toi, est-ce que tu as regardé dans l'Église et dit, un tel, c'est un modèle pour moi? Pour des bonnes raisons qu'on va voir tantôt. Ce serait important. Paul nous dit de le faire. Qu'est-ce que Paul y dit encore sur ses collaborateurs? Encore une fois, je pourrais discuter sur toutes sortes de choses, mais Paul y parle de tout ça, déjà. Si on recule encore un peu dans le texte, tournez donc à chapitre 2, verset 19. Vous voyez, la parole répond à des questions. Pendant que vous tournez, ça me fait penser, quand je travaillais avec le face-à-face il y a des années, des fois je poignais les gens. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en rappellent, mais ça m'arrivait des fois de dire, « Qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, ça? » C'est un texte. Là, je tendais le fil, puis je laissais le monde niaiser un peu avec. Puis là, je les pognais. Je dis, « Lis donc deux versets juste avant. » Puis tu vois, « Oh, OK, c'est ça. » Okay. Apprenez ça quand vous étudiez la Bible. Allez voir dans le contexte. Ne restez pas dans un verset, essayez de deviner ce que Dieu veut dire. Lisez le contexte, grande portion, essayez de savoir. Donc, il parle de porter des regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Un, il y a nous, puis deux, il y a ceux qui marchent de cette façon-là. Il y a deux personnes que Paul parle dans son livre. Donc, 2:19. J'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée. Un exemple. Et qu'est-ce qu'il dit, ce Timothée? Verset 20 va nous le dire. Il dit, « Car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour se soucier sincèrement de votre situation. Tous, en effet, cherchent leur propre intérêt et non ceux du Christ Jésus. » Quel modèle de quelqu'un qui vit dans un autre royaume. Nous, ici, dans notre royaume terrestre, on vit pour soi. C'est surtout en Amérique du Nord aujourd'hui. Là, tu sais, le Québec, le Canada, là, l'Amérique du Nord, 2012, là, c'est quelque chose. C'est le moi, je me moi, on dit. Hein? Parce que, tu sais, moi, je développe. Moi, je sens. Moi, j'ai besoin. Moi, j'ai. On a entendu quelque chose plus que moi, ce mot-là. Hein? Mais Paul est dit de Timothée, tous cherchent leur propre intérêt, non ceux de Jésus-Christ, mais pas Timothée. Lui, il se soucie sincèrement de votre situation. Quel modèle! Et on voit aussi dans le verset 22, vous savez qu'il a fait ses preuves et que, comme un enfant auprès de son père, il s'est consacré avec moi au service de l'Évangile. Il se soucie des autres. Pas de lui-même, mais des autres, et surtout des intérêts de Jésus-Christ pour ces personnes-là. Et il s'est mis à l'œuvre, à travailler, pour mettre en œuvre ces choses-là. Il y a des camps qui sont là présentement. Là. On a des gens qui se soucient pour les âmes. Puis on a des gens qui, non seulement qui se soucient, mais qui mettent leurs vacances de côté. Moi, je ne parle pas de moi, j'ai 8 semaines de vacances. Okay? Je n'ai pas rien à donner pour 2 semaines pour la villa. Là. C'est équivalent à une couple de jours pour plusieurs. Mais des gens qui prennent 1 semaine sur 2, la moitié de leurs vacances dans l'année, pour aller travailler à la Villa du Carmel. Ça, c'est des gens qui s'occupent des intérêts de Jésus-Christ avant les leurs et qui se consacrent au travail. C'est pas juste la Villa, par exemple. On a entendu parler des gens qui étaient à l'expo. Bien, les gens, tant qu'à aller à l'expo, là, ils aimeraient ça faire des ménages, puis manger du popcorn, puis faire je sais pas trop quoi. Ou tant qu'à faire ça, j'irais ailleurs, au resto, faire de quoi. Ça, c'est des gens qui suscitent de la population de Trois-Rivières, qui veulent les atteindre pour l'Évangile et qui se consacrent au travail. Je vous encourage. Tu ne sais pas quoi faire. Tu connais plus la Bible que le gens qui va venir te parler là-bas. Hein? Même si tu connais très peu, tu le connais plus la Bible que lui. Tu connais plus Dieu que lui. Tu vas être capable d'enseigner quelque chose. Donc, consacrez-vous au travail. Essayez. Si ce n'est pas ça, il y a sûrement d'autres choses. Un deuxième qu'on a dans le texte, verset 25. J'estime nécessaire de vous envoyer Épaphrodite. Ils ont des noms drôles des fois dans la Bible, hein? Mais ce n'est pas grave, c'est un bon diable. Épaphrodite, mon frère, mon compagnon d'œuvre et de combat que vous m'avez envoyé. Un compagnon d'œuvre et de combat. C'est dit même plus tard, verset 29, qui ressemble à porter de regard sur ce qui marche selon le modèle. Verset 29, recevez-le dans le Seigneur avec une joie entière et honorez de tels hommes, car, regarde sa vie, c'est pour l'œuvre de Christ qu'il a été prêt de mourir et a exposé sa vie. C'est des exemples. Eux, la citoyenneté qui est dans les cieux, ça a changé le motif, ça a changé l'empressement dans le service. Et pour nous aussi, de réfléchir, ça va l'être. Ensuite, Paul dans son texte, on retourne à 3:17, « Soyez mes imitateurs, donc imite Paul qui est citoyen des cieux. Portez des regards sur ce qui marche selon ce modèle-là. » On parle de Timothée, on parle d'Épaphrodite qui se sont donnés à fond pour l'Évangile. Verset 18 nous dit, « Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. » Là, on a un contraste avec des faux docteurs que eux ne vivent pas comme citoyens des cieux. Il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. C'est qui ces plusieurs-là? Première chose qui nous vient à la tête, c'est sûrement... peut-être des gens de votre travail qui rient de vous, des voisins qui trouvent que vous êtes bizarre parce que vous êtes chrétien. Jean-Luc qui lit beaucoup et des gens qui s'intéressent à l'apologétique penseraient Christopher Hitchens qui est un athée. Là. Ils écrivent des livres pour nous dire comment que Dieu n'existe pas puis on a compte de le suivre. On pensait que c'est eux autres. C'est quoi eux autres qui parlent? Attends un instant. Pour moi, ça ne fit pas dans le contexte de ce qui se passe ici. Paul, il parlait tantôt de prendre garde aux chiens, de prendre garde aux mauvais ouvriers, aux faux circoncis. C'est des gens de l'Église. Ils disent même, il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix du Christ. Probablement, Paul parlait de gens dans l'Église, dans ce temps-là. Des faux docteurs qui n'avaient pas compris rien, qui ne vivaient pas leur vie comme citoyens d'une nouvelle place. Ils jouaient le jeu, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils retiraient de ça, peut-être c'est de l'argent qu'ils avaient, peut-être la gloire qu'ils avaient, mais qui vivaient dans l'Église. Celle-là, j'ai perdu un peu dans mes notes, mais ce n'est pas grave. C'est là qu'il faut qu'on pense. Hein? Paul dit, il y a moi, il y a Timothée et Epaphrodite, il y en a d'autres dans ton assemblée que tu devrais marquer comme des modèles à suivre. Mais il dit, faites attention, parce qu'il y en a qui sont ennemis de la croix du Christ. Et si Paul doit le dire, c'est parce que ce n'est pas évident. C'est parce que ce n'est pas... Si on ne pourra pas se lever le matin et puis tout le monde pointer de doigt, c'est pointe la personne que tu penses, puis tout le monde pointe la même, puis on les met dehors. Là. C'est, en tout cas, c'est un peu gênant, je pense. En tout cas. Mais évidemment, ce n'est pas si simple que ça, où il n'y aura pas eu de besoin d'un avertissement. Ce n'est pas des ennemis qui disent que Christ n'est pas Dieu, que l'œuvre du salut sur la croix n'est pas efficace. C'est des ennemis de la croix parce qu'ils ne veulent pas porter l'opprobre de la croix. Parce qu'ils ne veulent pas vivre l'humiliation de la croix. Parce qu'ils ne sont pas prêts à se renoncer à soi-même, à porter la croix et à le suivre. Puis il peut en avoir dans l'Église qui pourraient paraître comme des modèles. Et Paul doit avertir. Doit avertir. Qu'est-ce qu'il dit à propos d'eux, à part qu'ils marchent en ennemi de la croix du Christ? Verset 19, il dit, « Leur fin, c'est la perdition. » C'est très mauvais d'avoir un modèle qui s'en va en perdition. Hein? Ce n'est pas le chemin qu'on veut suivre, ça. Peu importe qu'est-ce que le chemin a l'air, ce n'est pas la destination qu'on veut, où on veut aller. Et ça, c'est plus la finalité de ce qui s'en va, un avertissement. Les caractéristiques de ce qu'on peut voir dans ces gens-là viennent au milieu du verset 19. « Leur Dieu, c'est leur ventre. Les appétits qui règnent sur eux. C'est le passion, le désir qui fonctionne comme Dieu pour eux. Maintenant, c'est pas juste le ventre, c'est pas juste la nourriture. Je pense pas que c'est juste des gens qui aimaient des beaux bons steaks puis des steaks patates. Je pense pas que c'est. J'espère que c'est pas grave, ça. J'aime bien un bon steak. En tout cas. C'est bon. On parle là de Dieu fonctionnel. C'est venu il y a quelque temps avec Michel Pedneau. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il parlait de Dieu fonctionnel. J'ai une citation encore d'un livre ici. Les dieux fonctionnels. La plupart d'entre nous pensent qu'une idole est une statue de bois, pierre ou métal adorée par des gens païens. En termes bibliques, c'est quelque chose autre que Dieu à laquelle nos cœurs s'attachent, qui nous motive, qui nous maîtrise, nous domine, à laquelle nous faisons confiance, que nous craignons ou que nous servons. Un Dieu faux Dieu, un Dieu fonctionnel. Paul avertit, quelques-uns de ceux qui pourraient paraître des modèles sont attachés à d'autres choses que Dieu. Ils servent d'autres choses que Dieu. Puis ils veulent vous amener loin de suivre Dieu. Aussi une définition, qui ou quoi contrôle vraiment nos actions, nos pensées, nos émotions, nos attitudes, nos mémoires, nos anticipations. Le Dieu sur le ventre, le patient. Et il y en a malheureusement parmi les chrétiens qui sont comme ça. Dans mes années dans l'Église, là, j'ai déjà entendu des gens dans l'Église vanter de combien de bières qu'ils pouvaient boire sans être sous. C'était triste. J'ai vu des gens essayer de se mettre de l'avant pour eux-mêmes plutôt que pour le bien de l'Assemblée. C'est triste. Paul dit qu'il en parle en pleurant. Puis nous aussi, nous devrions pleurer en pensant à ces gens qui détruisent le troupeau par leur passion et par le faux Dieu. On dit aussi, en rejoignant les mêmes choses, ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils devraient avoir honte, mais ils en glorifient plutôt. De toutes les nouvelles bebelles qui ont acheté, tout l'argent qu'ils ont dépensé là-dessus, tout le temps qu'ils ont passé en vacances. Excusez-moi, blague plate. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et le dernier clou dans le cercueil, ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Un seul objet de pensée. Et c'est là que Paul arrive tout de suite après avec « Mais pour nous, notre citoyenneté est dans les cieux. » Donc c'est là le lien que lui va faire. Mais c'est là que je me suis demandé, même pour moi-même, l'application principale du texte, c'est des modèles qu'on va se donner. Et là, je veux rester surtout là, mais j'ai pensé pour moi-même, combien de jours peuvent passer sans que je pense à autre chose que la terre? Mon travail que j'ai à faire, les enfants à coucher, les ménages à faire, les choses à acheter, de l'argent, des factures à payer, des ci, des ça. Puis on viraille dans nos affaires. Puis combien de jours dans ma vie que j'ai passé en ne pensant qu'aux choses de la terre? Pourtant, ce n'est pas dur. Je couche mes enfants, puis je prends la peine de réfléchir à ce que Dieu voudrait que je fasse pour eux dans ce moment-là. Quel genre de souhait Dieu a pour eux quand je prie pour eux, à place de garocher la même prière que j'ai faite les 5 au 3. C'est pas dur pourtant. C'est pas vraiment une affaire de prendre ta Bible, puis de lire 4 heures par jour, puis de prier 4 autres jours, puis de ne pas avoir le temps de travailler parce que tu lis, puis tu pries trop. C'est pas ça que je parle. Mais combien de jours est-ce qu'on ne rachète pas toutes les petites choses qu'on fait? Je fais la vaisselle de reculons parce que ma femme a chialé, et pas de l'avant parce que je peux la servir de cette façon-là. Et en la servant, je sers Jésus-Christ. Combien de jours est-ce que je peux passer? Mais aussi, comme j'ai dit, l'application principale du texte, Paul parle des modèles qu'on se donne, de remarquer des modèles pour qu'on puisse les imiter. Nos modèles, ils pensent à quoi? Où sont leurs pensées? Où sont leurs désirs? Ils veulent-tu une plus grosse bâtisse? Plus de corps dans les chaises? Ou ils veulent plus de vrais disciples qui aiment Jésus, qui le suivent, qui sacrifient leur vie? Là, je pose la question. Qui sont tes modèles? Sont-ils bien choisis? Il faut que je fasse un plug pour ma cellule de prière, encore une fois. Vous savez, ceux qui viennent m'entendre prêcher, là, j'en parle tout le temps, parce que j'aime ça. Ma cellule de prière m'a vraiment aidé. Je suis dans un depuis les 16 ans que je suis au Cap. J'ai commencé avec Jocelyn au but, même Raymond et Claire, là, on était ensemble au début dans ce temps-là, avec Vivi Coffee et Mme Robin-Den, et toutes sortes de... Luc et sa femme, là, qui avaient la Lutec, toutes sortes de personnes et toutes sortes de monde. J'ai passé par le face-à-face, collège et carrière. Maintenant, j'ai les La Rochelle-Livienne, les Bédard, Desilets, Pierrette, et Georges, et Nancy, Richard, tout ça. C'est vraiment le fun. Mais là, je vous dis que j'ai des modèles, là. Je ne veux pas dire que c'est des personnes parfaites. Ça, je le sais aussi. On se côtoie assez pour voir. Mais c'est des gens qui ont élevé des enfants selon Dieu, qui ont des enfants qui suivent le Seigneur maintenant, qui sont matures, ils sont capables. Quel modèle que c'est pour moi, ça! Des gens qui aiment le Seigneur, qui donnent leur vie à le servir, que je vois le patient, qui, même le travail, ils m'enseignent à ce que mon travail soit une occasion de servir Dieu. Ce n'est pas que je débranche, là, puis je m'en vais travailler, puis là, je reviens servir Dieu à la maison là, ou dans l'église. J'ai appris plein de choses de ces modèles-là. Et la cellule m'a donné une chance d'avoir des modèles autres que des gens pareils comme moi. J'en ai eu. J'ai appris plein de choses de Julien et de Jean-Luc. Mais j'en apprends plein d'autres choses de gens qui sont un petit peu plus différents que moi. D'un autre âge, d'une autre situation. C'est vraiment enrichissant pour ce qui est des modèles. Et je vous encourage, si vous n'avez pas une cellule de prière, trouvez une. S'il n'y en a pas une qui convient, viens me voir. Je t'aiderai à en former une. On va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, tu vas voir, c'est transformateur dans la vie, ça. Mais j'ai des questions pour tes modèles. Est-ce que tu choisis tes modèles par leur personnalité ou par la piété? Quand tu regardes quelqu'un et tu cherches, ben, sois honnête avec toi. Hein? C'est facile là, de dire, oh, je cherche des gens pieux, mais vraiment, ce que tu dis, j'aimerais être comme lui. Là. Est-ce que c'est une personne qui a une personnalité grandiose, une personnalité cool, je ne sais pas trop, là, qu'est-ce que ça pourrait être, ou c'est par la piété? Des gens qui, évidemment, aiment le Seigneur, cherchent à le connaître. Ça se peut que ce soit quelqu'un avec une personnalité intéressante aussi, mais la piété d'abord. Est-ce que c'est parce que tu choisis ce modèle-là, parce que les autres l'aiment, ou parce que lui, il aime les autres? Est-ce que tu choisis cette personne-là pour sa grandeur ou pour son humilité? Est-ce qu'il, parce qu'il cherche à être servi ou parce qu'il cherche à servir? Est-ce que c'est parce qu'il cherche son bien ou ton bien? Ou même mieux encore, les intérêts de Jésus-Christ? C'est intéressant là, de mettre nos modèles et nos choix, les raisons pourquoi on choisit nos modèles là, derrière le microscope comme ça, puis de réfléchir. Pourquoi un tel, là, je voudrais être comme lui? Exactement. Et qui serait mieux? Choisissez vos modèles. Mais Paul, il finit pas là juste avec des modèles. Il parle de la citoyenneté dans les cieux, mais aussi l'espérance de notre nouvelle cité. Et ça, là, c'est des choses merveilleuses à y penser. Le texte nous dit, « Pour nous, notre cité est dans les cieux. De là, de ce cité-là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps humilié en le rendant semblable à son corps glorieux par le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir toutes choses. » Donc, l'espoir de cette cité-là, c'est pas juste, c'est pas comme moi aux États-Unis, là, qui je voyage aux États-Unis, puis jamais je retourne chez nous. Jamais je vais dans mon pays. C'est pas ça. Je suis un étranger, un voyageur, en attendant que Jésus-Christ revienne refaire cette terre ici, pour le rendre ma patrie, pour tout transformer, enlever tout ce qui est mal. Quel espoir que c'est! Que c'est merveilleux! Mais je veux juste pointer quelque chose là-dedans. Je voudrais vous faire remarquer. Il s'est dit, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Il n'est pas déjà sauveur. Ça ne vous étonne pas, ça? Ça me rappelle une petite phrase qui m'aide à comprendre toutes sortes de choses dans la parole. J'ai entendu, ils disent « déjà, mais pas encore ». Et c'est vrai que Jésus est déjà notre sauveur. C'est révélé à nous. Par la parole, on est venu à la foi en lui. L'œuvre du Saint-Esprit, on a été né de nouveau. On était dans le royaume de noirceur, puis on est venu dans le royaume de lumière. Toutes sortes de choses sont déjà passées dans nos âmes, dans notre esprit. Déjà, Jésus est notre sauveur, mais ce n'est pas encore complet. On a une espérance que tout ce qui a été commencé va finir. Pour l'instant, on vit encore avec la faiblesse du corps, avec l'usure du corps. On voit le dernier chapitre de l'Ecclésiaste là, qui est très poétique, qui parle d'entendre. On n'entend plus des choses, puis on ne voit plus des choses. Il parle de la vieillesse. Là. Très fascinant. Les gens, là, lisez-le. C'est frappant de dire qu'on va arriver là. Je parlais avec ma mère hier même qui disait elle est rendue à 71 ans. Puis là, mon petit-neveu puis ma petite-nièce sont chez eux. Puis c'est un enfant de 3 ans puis un autre d'un an. Là, il dit il y a des jouets partout à terre, mais on ne voit plus bien. Puis là, elle est nerveuse à marcher dans sa propre maison parce qu'elle ne sait pas où il pourrait avoir un jouet. Puis en plus, si elle tombe, ben là, à 71 ans, elle ne se lève pas comme un enfant de 5 ans. Hein? Des fois, je n'en revenais pas avec mes enfants. Ils couraient, là, pouf, chut, repartaient. Hein? Wow! Comment ils font ça? Mais 71 ans, ce n'est pas comme ça. Fait que là, elle est un peu nerveuse avec les enfants à la maison. Puis elle aime ça, les avoir, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, elle disait, c'est pas pareil que quand on était jeune. Donc, la faiblesse du corps, l'usure du corps qui arrive, même la mort du corps qui va arriver un jour. Mais, quand Jésus va venir, tout ça va être enlevé. On n'aura plus de faiblesse dans nos corps. Il n'y aura plus de l'usure. On ne viendra pas vieux. On n'aura pas de la misère à marcher, ou à voir, ou à entendre. 1 Corinthiens, je voulais le lire, mais je n'aurai pas le temps, mais 1 Corinthiens 15 nous parle justement de l'espoir, là, que ce corps, c'est comme une graine qu'on sème, mais qui va pousser pour devenir le vrai corps dans ce royaume-là. Et j'ai deux citations que je veux vous lire de ce livre-là. Moi, je veux aussi faire la promotion des cellules de prière. Faire la vente dans le temple, je ne sais pas. Mais je fais la promotion d'un petit livre. Ça, c'est publié par Discovery House Publishers, RBC, sur Radio Bible Class. Là, Eric Desonniers ferait plaisir. Ça a de l'air. Je ne sais pas si je cite bien Doug Etsy pour le dire, là, mais ça a de l'air quand Doug l'a vu. Il dit, ça fait longtemps que je n'ai pas vu un livre sur le ciel. C'est un livre carrément sur le ciel, là, depuis des années et des années. Puis en plus, c'est un bon. Je n'ai pas fini de le lire, je suis rendu à peu près à moitié. Je peux dire que c'est très intéressant, très instructif et très motivant aussi. Parce qu'il y a très... Donc, deux citations de ça. Il dit, « Aucun de nous n'est véritablement ce qu'il est censé être. Tout ce que nous sommes est la déformation impie de ce que Dieu a voulu que nous soyons. » Quelle description de ma vie ici. Une déformation impie de ce que Dieu voulait que je sois. Et il dit l'espoir, le ciel ne se résume pas à la perfection d'un lieu. Il s'agit de personnes rendues parfaites, dont moi un jour, dont vous, j'espère aussi un jour. Et il y en a un Jean 3:2 qui dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais... nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quel espoir! Notre corps humilié va être transformé, rendu semblable à son corps à lui. Mais, ce n'est fini pas là. C'est le pouvoir efficace qu'il a de s'ajuster. Merci. Toute chose. Il aurait fallu que je prenne une autre traduction. Hein? Et Anthony Okema, je ne sais pas c'est qui, mais lui, il a dit ça. Nous devons réaliser que Dieu ne sera pas satisfait jusqu'à ce que l'univers entier a été purgé de tous les résultats de la chute de l'homme. Tout va être renouvelé un jour. Pas seulement nous, mais la création entière. Et dans le livre que je lisais, il trace là, de l'Ancien Testament. Il y a Israël, que Dieu a donné sa loi, il a donné ses instructions, il nous a dit comment vivre en tant que peuple de Dieu. C'était déjà comme un snapshot, là, une photo là, de ce que c'était supposé être. Et aussi, il y a une déformation impie de ce que Dieu voulait qu'il soit. Ils n'ont jamais été capables d'y arriver. Mais Jésus, quand il est venu, il annonce le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus dit tout le temps? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Puis il explique que les guérisons en avaient la victoire déjà sur la maladie, des résurrections déjà des victoires sur la mort, des miracles déjà, des guérisons d'un monde malade. C'est par la présence seule de Jésus-Christ. Déjà, le royaume est inauguré en nous, mais pas encore complet. J'ai prêché il y a quelque temps avec Douglas sur Romains 8, tout ce qu'on dit, que la création elle-même attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création était soumise à la vanité avec une espérance que cette même création serait libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. La création entière. Notre ardent désir que ça arrive. Et en Apocalypse 21, je vais juste le lire pour vous, pour le vrai. C'est dit... je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et le premier terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui se parait pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Il va s'assujettir éventuellement toutes choses. Quel espoir pour notre nouvelle cité. Quel, un jour, tout ça va être parti. La maison que j'aurais faite, le foyer, le chez-nous que j'aurais fait, va être détruit et je vais déménager dans un autre que Jésus prépare présentement pour moi. Quelle motivation, hein, de vivre en tant que citoyen des cieux. Là, on arrive à la fin. En fait, on a déjà eu plein d'applications tout autour pendant la prédication, mais j'aime le verset 120 des Actes. Hein. Pierre, il prêche une prédication à 4000 personnes, je ne sais pas trop combien, autour du temple, puis il a dit, vous avez crucifié le Christ, puis là, ils sont là, puis ils disent, frère, que ferons-nous? Mais quelle attitude de soumission, quelle attitude de désir de vivre la parole de Dieu. Hein? Ils s'appliquaient à eux autres, puis ils cherchaient un moyen de le vivre. Mais qu'est-ce qu'on peut penser? Ben, un, on peut chercher à imiter Paul. On en a parlé. Et de vivre comme lui. On peut chercher de vivre aussi comme ses collaborateurs. De mettre de côté, comme Paul, tout ce qu'on était fiers, puis toutes nos œuvres de justice, puis tout ce qu'on pensait, on pourrait penser qu'il nous donnait une gloire devant Dieu, puis de rejeter tout ça pour le salut de nos âmes et chercher à connaître Christ. Et que cette connaissance nous pousse à servir les autres, à faire agir, à faire grandir ce que Dieu intéresse, ce que Christ intéresse pour nous, pour le prochain, de travailler pour ça. Je peux rejeter le modèle des faux docteurs, ceux que le Dieu se le vante et le patient, qui ont d'autres dieux que Dieu, qui sont fiers de ce qu'ils ne devraient pas, qui pensent juste aux choses de la terre. Je peux les rejeter. Je peux attendre avec joie le retour de Jésus-Christ. Pensez-y. Je peux aussi, par exemple, comme Philippiens 4, 1 dit, ça suit, hein? Je vous ai dit tantôt, hein? Regarde ce que la parole dit. Cherchez pas loin, hein? Le pouvoir efficace qu'il a de s'assujettir. Tiens, je l'ai eu, toute chose. Et là, il dit, c'est pourquoi? Il va nous dire, lui-même, qu'est-ce qui se passe, hein? C'est pourquoi, fier bien-aimé, que je désire vivement revoir ma joie et ma couronne, demeurer ainsi ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. Demeurer ferme. Laissons pas l'opprobre des gens nous tirer loin. Laissez pas les difficultés de la vie nous tirer loin de Dieu, loin de ce royaume-là. Que les difficultés de ce monde, que la maladie, la détresse, que des amis qui se détournent de nous, que la pauvreté, la solitude ne nous attire loin de Dieu. Et qu'on demeure ferme dans le Seigneur. Qu'on demeure ferme comme citoyen des cieux. Prions ensemble. Donc, ô grand Dieu créateur, qui nous a créés pour toi-même, qui nous a aimés dans notre rébellion, qui nous a rachetés de notre péché par le sang de ton propre Fils. Nous te remercions de ce que tu nous as ramenés de la mort à la vie. Tu nous as transformés du royaume de noirceur dans ton royaume de lumière. Tu nous as guéris de notre aveuglement pour que nous te voyions. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, pour ton Fils qui a ouvert ce royaume pour nous, pour tes apôtres, tes ouvriers qui l'ont annoncé jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'ici. Pour cette Église, nous pouvons vivre déjà les prémices du royaume à venir pour nos frères et nos sœurs qui nous montrent le chemin à suivre par leurs exemples. Donne-nous maintenant, Seigneur, de saisir l'espérance de ta venue prochaine quand nous serons transformés à ton image et le monde entier assujetti à ton règne. Que ton esprit, par ta parole, nous rende dignes de ton appel, de la vocation céleste en Jésus-Christ. Qu'il nous détache de ce monde et nous attache au monde à venir. Qu'il nous fasse abandonner tous ceux dont nous étions fiers pour chercher à connaître Jésus-Christ. Et qu'il nous affermisse dans le Seigneur Jésus-Christ et dans son royaume. Amen. Amen. Amen et bon dimanche et bonne semaine.